Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. C'est en ce moment la 8e semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus. Ce cancer pourrait quasiment être éliminé grâce aux frottis de dépistage et à la vaccination contre le papillomavirus. Mais aujourd'hui, si on prend l'exemple de la France, moins de 30% des jeunes filles sont correctement vaccinées et 40% des femmes ne réalisent pas de frottis régulièrement, le plus souvent tout simplement par manque de suivi gynécologique. 90% des cancers pourraient être évités par un dépistage régulier par frottis. Pourtant, chaque année, 500 000 femmes dans le monde sont découvertes porteuses d'un cancer du col de l'utérus. Plus de la moitié en décèdent. Et 85% de ces décès ont lieu dans les pays en développement. En Afrique subsaharienne d'ailleurs et en Inde, c'est la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Ce cancer se développe progressivement à partir de lésions dites précancéreuses, causées pour la plupart par différents virus de la famille des papillomavirus. Et c'est le deuxième cancer féminin dans le monde. Pour en parler, je reçois le docteur Nasrine Khaleh, qui est gynécologue à l'Institut Curie. Vous pouvez bien sûr nous appeler, l'appeler pour lui poser des questions, apporter un témoignage au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le docteur Judith Didi Koukou Koulibaly, qui est oncologue médicale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pour terminer, on parlera de la Journée mondiale des lépreux qui se déroule ce week-end.
RFI.
Docteur Nasrine Khaleh, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour.
Quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus? J'ai commencé à l'évoquer, c'est cette question du papillomavirus.
Alors, le cancer du col, c'est vrai que c'est la semaine prochaine, c'est la semaine donc de dépistage de cancer du col. C'est un cancer qui est bien sûr, comparativement au cancer du sein, la fréquence est beaucoup moins importante, puisque à peu près on a 3200 nouveaux cas par an en France, mais quand même responsable de 1000 morts par an. Mais je dirais que déjà c'est beaucoup trop, dans la mesure où c'est un des cancers qui peut être complètement évité, puisqu'on connaît la cause. Dans la plupart des cas, c'est dû à un virus, le virus qui est de la famille des papillomavirus, dit HPV virus. C'est un ensemble de familles de virus qui, pour parler simplement, sont responsables souvent des verrues. Alors, dans cette famille de virus, il y a des familles, il y a des virus qui sont dites oncogènes, c'est-à-dire, pour parler aussi simplement, c'est des virus méchants, qui entraînent des modifications de la paroi du col de l'utérus. Et petit à petit, il y a des anomalies de la surface du col de l'utérus qui, sur 10, voire 15 ans, dégénèrent vers un cancer du col. Donc, l'idée pour ce cancer, c'est de prévenir par deux façons. Une prévention dite primaire, qui est éviter la cause, donc la vaccination dès le plus jeune âge, parce que maintenant on a deux vaccins qui vraiment protègent contre ces virus dits oncogènes, donc les virus qui créent le cancer du col, dès l'âge de 11 ans maintenant, hein, il y a deux vaccins qui sont sur le marché. Et deuxième type de prévention qu'on met en plus en place, c'est le dépistage secondaire, prévention secondaire par réalisation des frottis du col de l'utérus par le gynécologue, par le médecin généraliste ou les sages-femmes, qui dépistent ces lésions précancéreuses, qui les traitent afin d'éviter la survenue d'un cancer. Donc c'est un cancer qui est complètement évitable.
Qu'on devrait vraiment réussir à en venir à bout. Alors on sait que dans des pays en développement, il y a des problèmes de moyens financiers. En France, ça paraît étonnant qu'on progresse pas plus, oui. On y reviendra. J'aimerais bien revenir sur ce dépistage. En quoi consiste exactement ce frottis? Quel est l'examen qui est fait? Tous les combien de temps faudrait-il le faire?
Alors, l'examen, c'est un examen très simple, pas du tout douloureux, peut être fait très souvent, c'est fait par les gynécologues. C'est un examen gynécologique. Je rentre un peu dans le technique, un spéculum. On visualise le col de l'utérus et à l'aide d'une petite brosse qui est absolument pas douloureux, on prélève des cellules de la surface du col, comme un prélèvement qu'on fait dans la bouche, et là c'est au niveau du col de l'utérus. Et après, on envoie ça au laboratoire et donc il analyse et il voit est-ce qu'il y a des anomalies du col. Alors,
Et qu'est-ce qu'il voit justement? Il voit ce papillomavirus et c'est ce papillomavirus qui risque d'évoluer en cancer.
Alors, il voit les anomalies de la surface des cellules du col de l'utérus et il y a des signes indirects sur ces cellules du col qui évoquent l'infection au papillomavirus. Et à ce moment-là, on fait une petite analyse virale sur ces prélèvements et on voit de quel type de virus il s'agit. Est-ce que ce sont les virus dits oncogènes, c'est-à-dire cancérigènes, oui ou non, à ce moment-là, on traite ces lésions. Donc, c'est un examen très simple. C'est un examen gynécologique. Les sages-femmes peuvent le faire régulièrement, les généralistes aussi, et les gynécologues, bien entendu. Donc, il faut, en fait, sensibiliser les femmes pour aller faire cet examen, qui, maintenant, grâce aux recommandations de la Sécurité sociale et aux autorités de la santé, est complètement remboursé. Donc, on fait, normalement, si on veut obéir à réglementation, c'est vers 25 ans qu'on doit faire un frottis. Après, si le frottis est normal, à 26 ans, puis après, tous les 3 ans, jusqu'à 65 ans. Alors là, il y a un bémol personnel que je le dis, c'est que il faut
pourquoi
quand
s'arrêter
même,
à 65
voilà,
ans
pourquoi s'arrêter à 65 ans. J'insiste quand même que réalisation de frottis n'a rien à voir avec avoir des rapports sexuels. Qu'on ait ou pas des rapports, il faut quand même faire son frottis. Parce que souvent, les patients disent, oh ben maintenant, moi je suis ménopausée, ou j'ai pas souvent des rapports, ça n'a rien à voir. Donc il faut quand même faire son frottis. Pourquoi s'arrêter à 65 ans? Je ne sais pas, peut-être parce que la fréquence de cancer du col, effectivement, est moins importante après. Et donc, ça, c'est l'économie de la santé qui parle dans les recommandations. Mais au niveau individuel, il faut que les femmes continuent à voir son gynécologue, faire ses frottis. Et à ce moment-là, bon, pour la population, effectivement, qui est vaccinée, on est un petit peu plus rassurée dans la mesure où ces femmes-là, elles seront protégées un peu plus. Mais les dames de 65 ans n'ont pas été vaccinées, donc il faut quand même continuer à faire le vaccin.
Et même
le frottis.
Le frottis. Et même pour les jeunes filles qui vont être et qui sont vaccinées, il faut absolument faire ce frottis régulièrement.
Ah oui, oui, ça c'est la vaccination ne dispense pas de la réalisation du frottis. Mais par contre, la vaccination protège quand même contre ces deux virus qui sont très potentiellement cancérigènes.
Oui. Les auditeurs sont nombreux à appeler, ils ont pas mal de questions à vous poser. On a Aminata qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Aminata, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous?
On vous écoute.
Oui, ma question par rapport au cancer du col de l'utérus, c'est juste pour savoir si une femme âgée de 44 ans et qui n'a jamais entretenu de relations sexuelles, est-ce possible pour elle de prévenir le cancer de l'utérus? Et si c'est possible, est-ce qu'on pourra aussi utiliser la vaccin contre le cancer du col de l'utérus? Et comment se faire dépister pour une femme qui n'a jamais eu de relation sexuelle aussi?
C'est ça. Est-ce qu'il faut aussi faire des frottis quand une femme n'a jamais eu de relation sexuelle?
Alors, quand une femme n'a jamais eu de relation sexuelle, c'est vrai que le risque de cancer du col est moins importante. Mais il y a quand même...
Moins importante.
Mais pas nul, non.
D'accord.
Parce que, malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas jamais eu de rapport, mais qui ont développé un cancer du col. À ce moment-là, vraisemblablement, ce cancer du col n'est pas d'origine virale, parce qu'il y a quand même un petit pourcentage, moins de 10% ou 10% à peu près des cas, qui sont pas dus au virus. Donc, effectivement, le risque est moindre, mais le risque n'est pas nul. Donc le frottis est là encore pour nous diriger sur la conduite à tenir.
Donc le frottis, même si on n'a pas eu de rapport sexuel, c'est important. Donc aller consulter un gynécologue, oui, c'est important. Et la question de la vaccination, est-ce que ça vaut le coup?
Alors la vaccination, par définition, c'est un vaccin doit éviter 100% la maladie. Donc les recommandations au niveau des vaccinations, c'est réaliser une vaccination entre 11 et 14 ans d'abord, hein, et après un rattrapage jusqu'à 20 ans. La vaccination est remboursée en France, c'est pour ça que ça rentre dans ce cadre légal de recommandation de la santé. Il y a d'autres pays, par exemple comme en Australie, les femmes beaucoup plus âgées, 47, 49, 50 ans, elles sont vaccinées. Mais à ce moment-là, c'est vrai que l'efficacité du vaccin est peut-être pas 100%, mais quand même, ça protège.
On a bien répondu à votre question, Aminata?
Oui, c'est bon. Puisque ça pourra être efficace à 44 ans, c'est bon, alhamdoulilah.
Merci beaucoup. Ça peut être efficace aussi à 40 ans, absolument.
Oui.
Merci beaucoup, en tout cas. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. On a Carole qui nous appelle de Parakou au Bénin. Valérie, pardon, je me suis trompée. Valérie à Yaoundé. Ah ben non, c'est voilà, on n'a pas Carole, on l'aura peut-être après. C'est Valérie à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Valérie.
Bonjour.
On vous écoute Valérie.
Merci beaucoup pour cette vidéo pour mon frère. En fait, c'est pas en termes de questions, mais je voudrais juste apporter...
Alors, Valérie, juste, la ligne téléphonique n'est pas très bonne, donc vous parlez bien près du téléphone, bien fort, et je pense qu'on va vous entendre.
Oui. Je voudrais quand même qu'on mette l'accent, parce que, par exemple, le docteur a parlé tout à l'heure que les vaccins, c'est à partir de 11-14 ans. Et en France, c'est remboursable. Par exemple, ici au Cameroun, on n'a pas cette possibilité de se faire rembourser pour les cas de prise en charge des cancers des cols de l'utérus. Ce qui fait que l'examen est extrêmement cher et le traitement est également extrêmement cher.
Donc il y a déjà ce volet qu'on devrait quand même mettre l'accent là-dessus. Donc, il y a aussi...
Allô? Oui, continuez. J'aurai des questions à vous poser après.
Il y a aussi le fait que très peu de partenaires s'intéressent au problème du cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire que pour les organisations de la société civile comme nous, qui sont dépendants des financements extérieurs, on est obligé de suivre le champ d'action d'un partenaire. Et c'est très contraignant dans la mise en œuvre de certaines activités, surtout que si vous travaillez sur la question, par exemple, du VIH-SIDA, et que vous arrivez dans la communauté où vous avez en face de vous une femme qui développe son VIH-SIDA et son cancer du col de l'utérus, la prise en charge est tellement importante dans le cas présent. Mais le projet ne pouvant pas nous permettre de prendre en charge ce genre de cas, comment est-ce que nous avons...
C'est très intéressant ce que vous posez comme question. Je voulais juste vous rajouter quand même que Gavi, hein, l'Alliance pour les vaccins et la vaccination, commence à financer l'introduction justement de ce vaccin contre le papillomavirus dans les pays en développement et entre autres en Afrique. Du coup, il y a certains pays qui le démarrent. Ce que j'entends dans ce que vous dites, Valérie, c'est qu'en tout cas, au Cameroun, pour l'instant, ça fait pas du tout partie du programme de vaccination, c'est ça?
Non, pas du tout. Parce que la stratégie de Gavi actuelle, c'est vrai qu'ils ont lancé les campagnes de vaccination qui marchent très bien, mais c'est vraiment pour les enfants de 0 à 5 ans sur la polio. Mais la nouvelle stratégie, qu'est-ce que la nouvelle stratégie de Gavi prévoit?
Alors, on n'a pas Gavi au téléphone, mais d'ailleurs, si quelqu'un nous écoute de chez Gavi, ils peuvent d'ailleurs aussi nous appeler. Le téléphone, c'est le 33 1 84 22 75 75. Mais je peux quand même vous dire de ce que j'ai suivi, c'est que Gavi est en train de l'introduire dans certains pays en le finançant. Oui, vous vouliez réagir?
Oui, c'est vrai que le vaccin est cher. Le vaccin est cher en France aussi, puisque la vaccination, c'est à peu près un petit peu plus que 300 euros, un cycle de vaccination. Bon, ici, on a de la chance que ça soit remboursé, mais j'ai vu aussi qu'au niveau de l'OMS, ils sont en train quand même de faire pas mal de choses. Un, pour faire des accords avec les laboratoires pharmaceutiques, notamment avec l'Institut Pasteur en France, pour baisser largement le prix du vaccin dans les pays en voie de développement. Et deux, pouvoir avoir aussi une autre politique de vaccination en Afrique afin de pouvoir donner des doses de vaccin aux jeunes filles. Alors, je voulais dire aussi que on fait le vaccin polio très jeune. Là, la campagne qui est faite en France, c'est parce que avant, il y avait une espèce de relationnel avec... Il faut faire avant d'avoir des rapports, après avoir des rapports. Donc ça, c'était maintenant, cette affaire-là est mise de côté.
C'est-à-dire
que maintenant, on fait le vaccin comme on fait un vaccin de rubéole chez une petite fille, vers 9-10 ans. On fait aussi le vaccin HPV. C'est pas pour ça, et je le dis, parce que souvent, il y a un amalgame, c'est pas pour ça que la jeune fille va forcément avoir des rapports. On fait la rubéole, la jeune fille va pas être enceinte à 9-10 ans. Donc c'est un petit peu le même programme idéologique de vaccination pour qu'elle soit protégée au moment où elle risque d'avoir des rapports. Donc, on vaccine bien au-delà.
Mais c'est ça. Ce qui est important, c'est que la vaccination ait lieu avant le premier rapport sexuel.
Bien sûr, parce que ce que je voulais dire, c'est que le virus HPV, qu'il faut bien savoir, il est sur la peau. Et les préservatifs ne protègent pas contre le HPV. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir, parce que c'est sur la peau et c'est sur la désquamation de la peau des organes génitaux où se trouve ce virus. Et c'est comme ça qu'on l'attrape. Donc du coup, c'est bien de faire le vaccin bien en amont, bien en avant, comme ça la patiente est protégée. Là, récemment, on s'est rendu compte que quand on vaccinait les jeunes filles, on pouvait faire que deux vaccins.
Alors voilà, c'est ça qui est important. Deux injections suffisent, alors qu'avant c'était trois.
Trois. Alors, si on respecte l'âge jeune de la patiente, les jeunes filles, deux vaccins suffisent. Alors, il y en a un qui est un mois après la première vaccination, l'autre deux mois après.
Et donc c'est le ça, troisième... il faut un intervalle de deux mois.
Voilà, alors ça dépend du vaccin. Il y a un vaccin qui est quadrivalent, il y a quatre virus contre quatre virus, protection contre quatre virus. On fait un vaccin là et un autre dans un mois, et puis un autre vaccin qui est aussi efficace aussi, qui protège que contre deux virus cancérigènes, bien sûr. Et là, c'est un vaccin là, un autre dans deux mois. Donc, on s'est rendu compte que quand on faisait cette vaccination, c'est les jeunes filles, entre 11 ans et 14-15 ans, deux vaccinations suffisaient. Par contre, si on fait le vaccin plus tard, c'est-à-dire vers l'âge de 20 ans, là, il faut quand même, pour l'instant, je dis bien, faire les trois doses, c'est-à-dire un vaccin là, un autre dans deux, voire un mois, et l'autre dans six mois.
C'est ça. Valérie, j'avais une question supplémentaire à vous poser. Vous avez évoqué la question du dépistage et du frottis en disant que c'était cher aussi, c'est-à-dire que c'est un examen biologique qui reste cher au Cameroun.
les moyens quand même, il y a des partenaires qui ont décidé de soutenir un peu cet aspect-là, et qui fait que le coût actuellement n'est pas assez considérable, n'est pas accessible pour toutes les femmes. Mmh. Parce que, pour la simple raison que moi, je travaille dans les communautés, et en zone rurale, les femmes ne peuvent pas débourser ce même montant pour pouvoir aller faire un examen. Donc, c'est très compliqué, vraiment, en zone rurale.
Oui, il y a un obstacle financier. Et est-ce que les femmes au Cameroun ont conscience, quand même, de l'importance de ce dépistage? Ou vous trouvez qu'il y a encore un peu de négligence?
Il y a un peu de négligence, mais au Cameroun, beaucoup de femmes prennent conscience qu'il est important qu'elles puissent effectuer l'examen. Mais il y a encore beaucoup de barrières socioculturelles. Mmh. Il y a beaucoup, il y a le problème d'accessibilité. Et pour rencontrer, par exemple, un gynécologue, ça coûte extrêmement cher. Mmh. Dans le service public, par exemple, la consultation pour un gynécologue, c'est avoisine dans les 15 000 francs. Mmh. Et maintenant, dans les hôpitaux, vous pouvez payer un billet de session, peut-être de 2 500 pour rencontrer un spécialiste. Et votre billet de session, c'est plus rime sans que vous ne rencontrez le spécialiste. C'est vraiment contraignant.
Mais docteur, attendez, je voudrais juste faire intervenir. Docteur Nasrin Khaled, ceci dit, ce suivi gynécologique et cet examen peut tout à fait être fait par une sage-femme,
généraliste. Bien sûr.
Oui.
Je vous ai dit, c'est un examen qui peut être fait par une sage-femme, tout à fait aussi bien qu'un généraliste.
Oui.
C'est pas du tout un examen compliqué. Hein.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Valérie?
Non, justement, parce que la sage-femme qui consulte la femme qui va à l'hôpital, c'est cette femme, par exemple, qui est enceinte, ou bien qui va pour un suivi de grossesse, ou on détecte qu'elle a un problème de cancer du col de l'utérus, ou bien parce que cette dernière a eu un problème, on lui demande d'aller à l'hôpital se faire consulter. Et là, on découvre qu'elle a un cancer du col de l'utérus. Maintenant, généralement, on prescrit des examens, on se demande de rencontrer spécifiquement un spécialiste, un gynécologue spécialiste, qui va confirmer, par exemple, ce que la sage-femme aurait détecté.
Mais à ce stade-là, Valérie, au stade d'avant de simple dépistage, ça peut être une sage-femme.
Oui,
il n'y a pas besoin
d'aller
jusqu'au gynécologue. La question, c'était le dépistage. Merci beaucoup, Valérie, d'être intervenue et de nous avoir alerté sur cette question. On a Carole qui nous appelle de Parakou au Bénin. Carole, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Carole.
Bon, j'avais quelques questions, mais j'ai eu la réponse à une, celle qui parle du préservatif. Donc, si je comprends bien, le préservatif ne protège pas contre le papillomavirus.
Exactement, vous avez bien compris.
La seconde question, c'est... On dit que est-ce que ce sont les hommes qui sont porteurs de ce papillomavirus? Je n'ai pas trop bien compris.
Ah oui, comment il arrive ce papillomavirus? C'est une bonne question ça.
Très bien, c'est Carole, très très bonne question. Le papillomavirus, c'est un virus qu'on a sur la peau. Tout le monde a ce papillomavirus. Mais bien sûr que les hommes sont porteurs. Mais le problème, c'est que les hommes, ils n'ont pas de col de l'utérus et donc ils risquent rien. Donc l'idéal, dans un monde idéal, c'est que tout le monde soit vacciné. Les femmes et les hommes. Comme ça, du coup, personne n'aura le papillomavirus.
C'est ça, personne ne pourra.
Mais ça, c'est un monde idéal.
Mais il y a des associations pour demander que les hommes soient vaccinés.
Alors, il faut dire que c'est aussi un peu, je veux dire, une maladie qui ne se voit pas, le papillomavirus. Bon, dans certains cas, on a des verrues, c'est vrai, au niveau des organes génitaux. Donc, on peut soupçonner qu'il y a des papillomavirus. Mais sinon, très très souvent, il n'y a pas de lésion. C'est au microscope qu'on découvre.
C'est ça, c'est une maladie silencieuse pendant longtemps, mais c'est ce qui permet aussi d'intervenir le plus tôt possible. Carole, vous restez en ligne avec nous, parce qu'on va être obligé de s'interrompre le temps des informations. J'ai bien compris que vous aviez d'autres questions à poser. Donc, restez en ligne. On continue à parler du cancer du col de l'utérus et surtout de la prévention de ce cancer. Un téléphone si vous voulez participer, le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la Semaine européenne de prévention du cancer du col de l'utérus qui va se dérouler la semaine prochaine. Et on en parle avec le docteur Nasrin Khaled, qui est gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Si vous avez envie de lui poser des questions, d'apporter un témoignage, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Vous êtes d'ailleurs nombreux à le faire et je vous rappelle que vous avez aussi les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Les informations, on était en ligne avec Carole de Paracou au Bénin, qui est toujours en ligne avec nous. Elle posait plusieurs questions à poser. D'abord, la première sur la question du préservatif, c'est intéressant de le rappeler, ça ne protège pas du papillomavirus. La question finalement de pourquoi les garçons ne pourraient pas se faire aussi vacciner. Vous dites, dans un monde idéal, bah oui, on pourrait vacciner tout le monde. Vous aviez, je crois, encore une autre question, Carole.
Oui, il nous reste deux petites questions là. La troisième, c'est, on dirait qu'il y a des familles où le cancer du col de l'utérus se développe. Je connais une famille où la maman est décédée du cancer du col, la sœur aînée aussi, et maintenant il y a deux autres sœurs qui en souffrent. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela?
Ah oui, docteur Khaled, est-ce qu'il y a un terrain familial?
Alors, parfois il y a un terrain, mais en fait c'est certains types de cancers du col, c'est-à-dire c'est les cancers glandulaires, effectivement, et à ce moment-là, c'est dans les familles, entre guillemets, à prédisposition génétique, qui peut être associée à des cancers de l'utérus ou cancer du côlon. Donc ces filles-là doivent être un petit peu plus protégées au niveau vaccination, au niveau frottis, donc elles devraient faire plus attention. C'est le dépistage ciblé. Mais c'est pas la majorité des cas, ça par contre, contrairement au cancer du sein de l'ovaire.
Mais c'est vrai que s'il y a un antécédent familial, faut être plus suivi.
Exact.
Vous aviez une dernière question, Carole.
Permettez-moi de revenir, elle a parlé de prédisposition.
Oui, prédisposition génétique, mais... C'est-à-dire que la prédisposition génétique, c'est au niveau des gènes. Mais c'est pas pour le cancer du col classique, c'est-à-dire que la forme épidermoïde, qui est surtout due au virus. Après, il y a des cancers glandulaires qui sont les cancers de l'utérus même. Donc ça, je sais pas les personnes dont vous m'en avez parlé. Il faut bien étudier l'analyse histologique, l'analyse au microscope du cancer. Mais quand même, quand il y a plusieurs cas dans la famille, il vaut mieux être plus attentif sur les filles jeunes.
Et ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, d'où l'intérêt du dépistage et de la prévention.
C'est pour ça que j'ai insisté, qu'on disait par rapport au cancer du sein, c'est pas, les cas ne sont pas aussi nombreux, bien sûr, parce qu'on a quand même à peu près 50 000 cancers du sein par an et 3 200 en France. Mais le problème, c'est que c'est un cancer qui peut être évité. Donc c'est déjà de trop, 1 000 morts par an en France.
On
devrait l'éradiquer.
Absolument. Carole, vous aviez encore une dernière question.
Oui, est-ce que si on dépiste le cancer du col chez une femme, le seul fait d'enlever l'utérus, ça peut sauver la femme?
Ça peut.
J'ai pas bien compris votre question, Carole. Si on dépiste,
le cancer du col chez une femme,
oui.
Est-ce que le seul fait d'enlever l'utérus?
Alors on n'enlève pas forcément l'utérus d'ailleurs.
Non, alors justement c'est ça le problématique, c'est que si le cancer du col est dépisté très très tôt, c'est-à-dire soit dans des états précancéreux, soit un cancer très débutant, on n'est pas obligé d'enlever tout l'utérus, parce que sinon un vrai cancer de l'utérus, il faut enlever, en principe, on commence par une chirurgie ou la radiothérapie. Et malheureusement, dans des cas avancés, la chirurgie, on peut pas le faire. Donc, on fait la radiothérapie et la chimiothérapie. D'où l'intérêt de dépister très tôt pour avoir un traitement moins mutilant qui empêche d'enlever l'utérus. Mais dans
c'est bien
un
pour
vrai
ça
cancer,
que vous prenez le dépistage et diagnostiquez le plus tôt possible. Que ce soit d'ailleurs pour le cancer du sein ou le cancer de l'utérus.
Tout. Et en plus, le pronostic, la survie est liée au stade.
Alors, je crois que vous aviez encore une dernière question, Carole, qui m'intéresse, que vous n'êtes pas la seule à la poser. Vous l'avez oublié. Je crois que vous aviez encore une dernière question dans ce que vous aviez dit à Jeanne. Non? Vous l'avez oublié, mais je vais la poser pour vous parce qu'il y en a plein d'auditeurs qui nous la posent. C'est la question du fait qu'est-ce que si les femmes ont des partenaires multiples, il y a plus de risques?
Alors, c'est ce qu'on dit, les études, effectivement, montrent ça, mais en fait, il faut faire attention à ce qu'on appelle le biais. C'est parce que plus on a de partenaires, plus on a les maladies sexuellement transmissibles, plus on risque d'avoir aussi le HPV. Donc c'est toujours, on passe par le biais HPV. Donc c'est vrai, partenaire multiple, maladie sexuellement transmissible, c'est un facteur de risque pour les cancers du col. C'est pour ça aussi que quand on dit globalement en France qu'il faut faire le dépistage à partir de 25 ans, tout dépend. C'est-à-dire que si c'est une jeune fille qui a déjà eu des rapports très précoces, il faut quand même lui faire des frottis plus tôt.
Voilà, c'est important. Merci beaucoup Carole pour toutes vos questions. On a au téléphone le professeur Judith Didi et Kouko Koulibaly, oncologue médical à Abidjan, Côte d'Ivoire. Professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous êtes présidente de l'association Aidons les personnes atteintes ou affectées par le cancer. Est-ce que vous avez des chiffres sur la fréquence de ce cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire?
Oui, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez, Claire. Le cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire est un véritable problème de santé publique. Il représente 20,5% des cancers féminins, selon les dernières données du registre du cancer d'Abidjan, avec une incidence de 21,7 pour 100 000 femmes et une mortalité de... On a eu 866 décès en 5 ans, de 2007 à 2011, avec un taux de mortalité de 14,7 pour 100 000.
C'est ça.
Et c'est justement la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme, après le cancer du sein, et la quatrième cause de mortalité, tout cancer confondu, après le cancer du foie, du sein et de la prostate.
Professeur Koulibaly, est-ce que ça veut dire que justement les patientes vous arrivent beaucoup trop tardivement, qu'il n'y a pas assez de dépistage?
En effet, les patientes arrivent tard. Il y a 75% des cancers du col de l'utérus qui sont découverts en Côte d'Ivoire à des stades localement avancés ou métastatiques. Ce chiffre a légèrement diminué parce qu'on était à 80%. Et en effet, il n'y avait pas beaucoup de dépistage, des enquêtes même de connaissances, attitudes et pratiques l'ont montré. Mais avec les activités du Programme national de lutte contre le cancer sur la supervision du ministère de la Santé, ont permis justement à ce cancer-là de passer du stade du premier cancer de la femme il y a quelques années au deuxième cancer féminin ici en Côte d'Ivoire, l'incidence a baissé.
On avait une auditrice dans la première partie de l'émission au téléphone, vous l'avez peut-être entendu, Valérie au Cameroun, qui nous disait que le problème c'est que le dépistage coûte cher. Qu'en est-il justement en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, effectivement le dépistage individuel coûte cher dans les hôpitaux publics et surtout privés. En Côte d'Ivoire, vu le problème de santé publique que représentait le cancer, un programme national de lutte contre le cancer a été créé par le ministère de la Santé en 2007. Et ce programme a mis en place une stratégie nationale de dépistage qui a été validée et qui est l'approche par inspection visuelle par la guide athlétique, mais selon l'approche consultation unique. Et ce type de dépistage ne coûte pas cher. Il coûte entre 1,5 et 2 euros, donc entre 1500 et je dirais même 2000 francs CFA chez nous, dans les hôpitaux publics. Et le programme de lutte contre le cancer a mis plusieurs types de dépistage dans le pays. En ce moment, on en a 64 qui sont fonctionnels dans plusieurs régions avec des comités de lutte contre le cancer et des comités de dépistage avec du personnel formé, notamment des sages-femmes, comme vous en parliez tout à l'heure. Et sur ces sites-là, au départ, le dépistage était gratuit parce qu'ils ont été installés avec l'aide des partenaires nationaux et internationaux. Mais dans l'objectif de pérenniser l'activité, les dépistages commencent à être payants, mais autour de, comme je vous ai dit, entre 1500 et 2000 francs CFA, donc autour de 1,5 euros.
Et où est-ce que vous en êtes de la vaccination contre le papillomavirus?
Oui, la vaccination est également une des activités qui est menée. C'est vrai que les indications sont celles que le docteur Gallet a données, mais... il y a des personnes qui font vacciner leurs enfants de manière individuelle, mais je voudrais plutôt insister sur l'activité les actions du ministère de la Santé au travers du programme national de lutte contre le cancer. Les deux vaccins sont disponibles, ils ont été enregistrés, ils ont eu leur autorisation de mise sur le marché à la direction de la pharmacie et du médicament en Côte d'Ivoire. Et à ce jour, 14 848 jeunes filles de 9 à 13 ans ont été vaccinées. Il y a eu un premier projet pilote de 1000 filles dans le nord de la Côte d'Ivoire et un autre concernant 10 000 filles dans le collège à Abidjan, toujours sous le couvert et avec le financement du ministère de la Santé et des partenaires locaux ou internationaux. Et aujourd'hui, justement, la Côte d'Ivoire a un projet en préparation avec l'Alliance Gavi qui va concerner dans un premier temps deux districts, un au nord de la Côte d'Ivoire et un à l'est. Et c'est un projet de démonstration au décours duquel l'objectif c'est l'introduction de la vaccination sur tout le territoire national. Voilà.
C'est ça. Et du coup, là, dans ces deux districts où les jeunes filles vont être vaccinées, la vaccination va être gratuite pour elles.
Oui.
Voilà,
oui.
C'est ça. Et donc, c'est bien ce dont on parlait, une introduction via Gavi. C'est très intéressant que vous nous ayez parlé de ça. Merci beaucoup, hein, professeur Koulibaly, d'être intervenu d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Une question par rapport à ça, docteur Nasrin Kalé. J'avais envie de vous parler, moi, de l'exemple de la Finlande qui a réussi quand même à considérablement améliorer le dépistage. Pourquoi eux y arrivent? Pourquoi nous, en France, on n'y arrive pas? Seulement 40% des femmes qui se font... 40% des femmes ne se font pas dépister. Ça passe à 50% au-delà de 50%. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pas bien là?
Je ne sais pas. Peut-être parce qu'on communique mal ou peut-être on se sent protégé contre ce cancer. On dit qu'il n'y a pas beaucoup. On parle plus de cancer du sein, c'est vrai. Donc grâce à la semaine de dépistage, on peut en parler un peu plus. Peut-être la méfiance aussi vis-à-vis des vaccins. Parce que c'est pas toujours évident. Il y a parfois une psychose contre les vaccins. Les effets secondaires, il y a eu des
polémiques. Alors, il y a une dernière étude qui vient de sortir, oui. Une étude menée par une équipe scandinave sur 4 millions de femmes, hein, de 10 à 44 ans, et montre qu'il n'y a absolument pas de lien avec la sclérose en plaques.
Non, alors, c'est les deux vaccins qui sont donc en France, qui ont l'AMM, ils sont autorisation de mise sur le marché. C'est des vaccins qui sont très, très surveillés au niveau européen, par des organismes indépendants. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de relation cause à effet sur les effets secondaires, notamment neurologiques, entre la vaccination et la survenue des troubles neurologiques, notamment la sclérose en plaques qui a été évoquée. Alors, juste un petit mot pour dire que il faut mettre les choses à leur place. C'est que la sclérose en plaques, c'est aussi malheureusement une maladie embêtante, très grave, qui est une maladie neurologique. C'est un processus immunitaire qui a une base génétique dans pas mal de cas. Et en France, il y a à peu près 2000 à 3000 nouveaux cas par an dépistés en sclérose en plaques et ça concerne à peu près 65 000 personnes, pardon. Mais quand on fait le rapport avec la vaccination, il y a moins de 6 cas de sclérose en plaques pour 1 million de femmes vaccinées. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de 5,5 millions de femmes vaccinées en France et il n'y a jamais eu de relation de cause à effet. Peut-être que effectivement il y a eu des cas de sclérose en plaques chez les femmes vaccinées, les filles vaccinées, mais l'âge de découverte de sclérose en plaques aussi coïncide avec l'âge de la vaccination. Donc il y a des études en biais, avec des biais dans les études qui peuvent fausser. Donc il faut quand même en parler pour qu'il n'y ait pas ce psychose vis-à-vis de la vaccination et essayer de encourager les mères et la population pour se faire vacciner.
Ça me paraît effectivement très important.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, on parle du cancer du col de l'utérus avec le docteur Nasrin Kalé et surtout, je dirais, de prévention. On a Florent qui nous appelle de Conakry en Guinée. Florent, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, Florent.
Merci beaucoup. J'ai 4 questions à poser au docteur. La première, je voulais savoir si l'abus des rapports sexuels peut causer le cancer du col de l'utérus.
Alors, qu'est-ce que l'abus de rapports sexuels peut causer le cancer du col de l'utérus?
C'est-à-dire que c'est l'abus, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on entend par l'abus, mais l'augmentation du nombre des rapports et surtout la multiplication des partenaires, oui, c'est surtout la multiplication des partenaires et qui est un facteur de risque, oui.
Plus que la quantité.
Parce que pour les gens qui même vont à l'extrême, ils disent, et on peut, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, que la maladie, la cancer du col est pour certains considérée comme une maladie sexuellement transmissible.
C'est ça. Florent, une deuxième question?
À quel âge peut-on avoir le cancer du col de l'utérus?
Ah ben c'est très large justement.
Alors oui, c'est pour ça, le cancer du col peut toucher tout le monde. C'est pour ça que au début on en a parlé, j'ai dit qu'il faut pas arrêter le dépistage à 65 ans. Alors effectivement, si on veut au niveau statistique, l'âge où on rencontre plus le cancer du sein, de l'utérus, du col de l'utérus, vous voyez l'absus, c'est que c'est vers 50 ans. Mais en fait, tous les âges sont concernés. Et ce que j'insiste, c'est que les cancers du col chez les femmes jeunes, ce sont les formes graves qui évoluent vite et qui sont mortelles. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment...
D'où le dépistage
chez les jeunes. Ah, mais tous les âges sont concernés. C'est vrai, moins souvent après 70 ans, 65 ans. Mais ça existe quand même.
Une dernière question, Florent.
Les maladies sexuellement transmissibles peuvent être à l'origine du cancer du col de l'utérus?
Alors, les maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire les bactéries, non, mais ça, comme ça va de pair avec la multiplication des partenaires et les relations sexuelles, oui, ça prépare le terrain. Alors, si on considère que HPV, le papillomavirus, est une maladie sexuellement transmissible, dans ce cas-là, oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Florent, pour toutes ces questions. Et on a Afi qui nous appelle d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Afi, bonjour.
Bonjour, Ken.
On vous écoute, Afi.
Voilà. En fait, moi, j'ai eu le papillomavirus il y a 2 ans. Et je fais régulièrement des sorties. Je fais 1 an et puis ensuite, le docteur m'a dit 3 ans après. Mais j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui a eu le papilloma virus comme moi, est-ce qu'il y aura forcément des récidives aussi des années?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, mais c'est une question très intéressante que vous posez, Afi.
Alors, donc il y a déjà la première question, c'est que quand on attrape le papillomavirus, dans la majorité des cas, si l'organisme au niveau immunitaire est assez fort, le corps élimine le papillomavirus sur un délai variable de 1 an à 2 ans, en principe. Donc, c'est pas parce que si on fait un frottis, que le frottis montre uniquement, enfin les frottis, biopsie ou colposcopie comme on veut, qu'il n'y a que le papillomavirus et qu'il n'y a pas de modification du col de l'utérus, c'est-à-dire il n'y a pas ces états précancéreux, on surveille la patiente d'une façon un petit peu plus rapprochée parce que elle-même, la patiente, éliminera le virus parce que le virus a une durée de vie, comme je vous ai dit, globalement entre 1 et 2 ans. Donc, les patientes qui sont porteurs de papillomavirus, ils doivent être suivis de façon plus rapprochée, ne pas attendre 3 ans pour faire un frottis. Après, quand on a eu le papillomavirus et qu'on a eu une maladie du col de l'utérus déjà, parce que ça avait déjà touché le col et qu'on a traité cette lésion du col, soit par petite chirurgie, soit par laser, là, on peut encore garder le virus, parce que ça dépend, je vous ai dit, au niveau immunitaire. Le virus peut persister. Donc toujours, ces patientes-là doivent être suivies. Et le nombre de rapports, la multiplication des partenaires peut réactiver ce virus et du coup, empêcher que ça soit éliminé plus vite.
Donc c'est
une pop quand la papillomavirus persiste au niveau des sécrétions vaginales sur le col, on doit surveiller la patiente et on doit pas attendre 3 ans. Non, c'est à peu près tous les ans qu'on
tous
doit
les ans, voilà. Un examen tous les ans pour voir comment ça évolue. Afi, vous aviez je crois une autre question à vous poser.
Oui, en fait, j'ai 2 autres questions. En fait, j'aimerais savoir la différence entre un virus et un bouton de rasage, parce que souvent je confonds et à chaque fois je te vais chez les gynécologues.
Ah, entre une verrue, finalement la verrue qui est du papillomavirus et un bouton de rasage. Mais en fait, on peut pas le sentir.
Alors, en principe, les papillomavirus, au début j'avais dit de façon un peu basique que ce sont les virus qui peuvent donner des verrues, c'est vrai, mais les verrues, c'est pas forcément les papillomavirus oncogènes. Ça peut être aussi les papillomavirus classiques qu'on attrape. Donc c'est pas ces virus-là qui sont graves pour le col de l'utérus. Parce que dans la famille des virus papillomavirus, il y a des virus plus ou moins méchantes. Donc, les virus en fait partie, mais c'est le dose, enfin, c'est le typage qu'on dit, c'est l'analyse de virus qui dit de quel type de virus il s'agit. Alors, par contre, quand on a effectivement des verrues au niveau des organes génitaux, je conseille fortement de les enlever parce qu'il peut y avoir une propagation de ces papillomavirus de la peau vers le vagin et sur le col. Donc, il faut bien les traiter. Les boutons de rasage, en principe, c'est pas des papillomavirus, c'est des bactéries.
C'est juste des bactéries. Voilà. Afi, vous aviez, je crois, encore une autre question à poser.
Comment faire la différence?
Comment on fait la différence? Ben, il faut la montrer. En principe, les boutons de rasage, c'est différent des verrues. Donc, il faudra le montrer à un médecin, plutôt, ou un dermato.
Et vous aviez encore une question à poser, Afi.
Oui, j'ai des petits boutons sur le pied. Et le dermatologue m'a dit que c'est des verrues. Et j'aimerais savoir si ces verrues-là peuvent entraîner ici des verrues génitales au contact de, je sais pas, de l'éponge ou de serviette.
Et elles sont où vos verrues? J'ai pas bien compris.
Elles sont sur le pied. J'ai des petits boutons sur le pied, en fait. Et à chaque fois que je
sur le pied,
ça revient.
Non, mais les verrues sur les pieds, c'est des verrues cutanées qu'il faut, il faut les traiter. Mais c'est pas ces verrues-là. Non, c'est pas les verrues au niveau gynécologique.
Afi, moi, j'aurais juste une question à vous poser. Une fois qu'on vous a découvert, donc, ce papillomavirus, qu'est-ce que vous avez eu comme traitement?
En fait, on me l'a enlevé en premier temps. Mmh. Et après, je suis allée voir un vénérien qui m'a mis sur Immunoplex N sur 3 mois avec mon copain. Oui. Et donc, depuis lors, donc, ça va. On a oui. encore des petits problèmes.
Voilà. Alors, effectivement, quand on enlève, parfois, on peut donner certains traitements pour booster l'immunité, ce qu'elle a eu à fille. Mais, comme je vous ai dit, souvent, l'organisme élimine aussi spontanément.
Afi, est-ce que vous arrivez à convaincre, du coup, les jeunes filles autour de vous d'aller, justement, se faire dépister après ça?
Ouais.
Ça paraît important.
Moi, j'ai été ignorante.
Mais
oui. Moi, j'ai été ignorante parce qu'il avait juste un petit bouton sur le texte qu'on a ignoré. Et donc aujourd'hui, voilà, ça nous a créé plein de problèmes.
C'est vraiment très très important. Merci beaucoup d'être intervenu. C'est bien, bravo Afi de vous faire suivre comme ça. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Je suis désolée parce qu'on a Joël qui attend en ligne de Bordeaux et on n'a pas le temps. Je voudrais juste vous faire part de questions qu'on a eues sur Facebook absolument en quantité incroyable sur est-ce vrai que certains contraceptifs tels que les pilules, le préservatif, les stérilets utilisés à grande répétition sont cause de cancer du col de l'utérus.
Non, là aussi.
Bien sûr, non,
trois fois non. C'est toujours des biais. C'est-à-dire que c'est sûr que les femmes qui prennent qui ont une contraception, c'est-à-dire que ce soit pilule ou stérilet, c'est des femmes qui, en principe, ils ont des rapports sexuels plus fréquents. Donc c'est vrai que à ce moment-là, le nombre de multiplication des partenaires, le nombre de rapports sexuels peut favoriser la contamination par HPV virus. Mais c'est pas la contraception qui fait augmenter le risque de cancer du col. Quant au préservatif, comme je l'ai dit, ça protège pour les MST, certains types d'autres maladies bactériennes, et bien sûr contre le VIH, contre le SIDA, mais malheureusement, ça ne protège pas contre l'HPV.
On arrive à la fin de cette émission parce que je voudrais qu'on termine en parlant de la journée mondiale des lépreux qui se déroule ce week-end. Un dernier mot de conclusion, insister vraiment sur dépistage et vaccination.
J'insiste sur le dépistage, sur la vaccination, ne pas avoir peur du vaccin. J'incite aux mères de penser à vacciner leurs filles comme ils le font vacciner pour la rubéole et les autres maladies, dès le plus jeune âge, parce que le cancer du col, c'est un fléau, c'est grave, chez les femmes jeunes surtout, et le traitement est agressif et ça met la fertilité en cause, les problèmes hormonaux, tout ça, et les traitements sont très agressifs par la suite. Donc, évitons-le à tout prix.
Merci beaucoup, docteur Nasrine Khaled. Je rappelle que vous êtes gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Vous revenez quand vous voulez nous parler de toutes ces questions-là.
Merci.
Et nous convaincre de l'importance du dépistage. Pour terminer, on parle de ces 62e journée mondiale des lépreux qui se déroule ce week-end. Docteur Bertrand Cauchois, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Vous êtes conseiller médical pour la Fondation Raoul Folro à Antananarive, à Madagascar. D'abord, dites-nous rapidement quels sont les pays dans lesquels la lèpre est encore présente.
Bah, écoutez, la lèpre est encore présente dans de nombreux pays, malheureusement. Et les pays aujourd'hui les plus touchés sont l'Inde, le Brésil, l'Indonésie. Mais on trouve aussi beaucoup de lèpre encore en Afrique et notamment dans les pays francophones dont s'occupe la Fondation Raoul Folro. Et particulièrement deux pays très touchés de la zone Folro, Madagascar et la Côte d'Ivoire, par exemple.
Et alors, est-ce que vous progressez, justement, en termes de prise en charge, ou vous avez l'impression qu'on n'avance plus tellement qu'on stagne?
Alors, écoutez, on progresse toujours en matière de prise en charge dès l'instant où il y a une motivation des partenaires pour aider à la lutte contre la lèpre. Maintenant, on a beaucoup progressé et on constate quand même qu'on stagne depuis quelques années en matière de dépistage alors que la lèpre est toujours présente. Et en fin de compte, on subit le problème des déficiences d'accès aux soins au niveau de populations qui sont hautement vulnérables. Et donc, la difficulté à progresser, c'est pour la grande partie qui a permis de baisser considérablement le fardeau de la lèpre, on s'est appuyé sur un système de santé. Malheureusement, dans les pays où on travaille, plus de 50% de la population est isolée du système de santé, et ces derniers cas sont difficiles à aller chercher.
Et justement, quelle stratégie faudrait-il mettre en place pour aboutir à l'élimination de cette maladie? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible?
Alors, l'élimination de la maladie, c'est toute une terminologie qui est en tout cas, l'éradication de la maladie, aujourd'hui, est difficile à envisager sans de grandes avancées en matière de recherche, notamment sur de la vaccination et sur des traitements préventifs. Donc aujourd'hui, nous, on mobilise, au niveau de la Fondation Raoul Follereau, on mobilise les chercheurs, on aide la recherche, alors que malheureusement, la maladie lèpre est une maladie qui n'intéresse pas beaucoup les laboratoires, et donc on fait un gros effort sur la recherche, mais aujourd'hui, clairement, il faut travailler sur une réduction de la durée des traitements, une meilleure approche de prophylaxie au niveau des malades, et pour nous, c'est beaucoup d'investissements pour aller sensibiliser les patients en zone reculée, pour aller avancer vers eux, et ça c'est des stratégies qui sont difficiles. Il faut aller au-devant des malades et cesser les stratégies où on attendait que les malades viennent d'eux-mêmes dans un système de santé qui aujourd'hui est trop éloigné d'eux.
Et c'est ça, et c'est bien là où vous avez besoin de moyens. Merci beaucoup docteur Bertrand Cauchois, et je rappelle donc que ce week-end se déroule la 62e journée mondiale des lépreux, l'occasion de mobiliser sur cette question et aussi de trouver des financements. Lundi, on parlera des bienfaits du sport pour la santé, comme d'habitude. On attendait maintenant vos questions au 33 1 84 22 75 75 et les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé, Didier Bleu, Assetou Samaké, Jeanne Cherquefosse et Laurent Hérault. Bonne fin de semaine et bien sûr, on se retrouve lundi en direct.